le navet. Il était une fois un pauvre jardinier, fort habile dans son état, qui travaillait de tout son cœur, sans pouvoir réussir à faire fortune. Il bêchait, piochait, greffait du matin au soir, se levait tôt, se couchait tard, et c'est à peine s'il pouvait, en se remuant ainsi, joindre les deux bouts à la fin de l'année. Il eût pu maudire sa destinée, mais cela ne l'eût guère avancé, et il persistait à s'occuper activement, espérant que la chance tournerait en sa faveur. Cela finit par arriver. Le diable n'est pas toujours à la porte d'un pauvre homme. Pendant que les fleurs et les fruits qu'il soignait avec sollicitude ne venaient pas mieux qu'à l'ordinaire, un navet, poussant à l'aventure dans un coin de son jardin, prit à l'improviste un développement extraordinaire. Il devint gros, d'abord, comme un melon, puis comme une citrouille, et sa rotondité augmentait de jour en jour. On aurait pu l'appeler le roi des navets. On n'en avait jamais vu de pareil, et l'on n'en verra jamais au monde. Le pays tout entier vint visiter cette merveille, et l'on en parla dans les papiers publics. Le jardinier n'était pas bête. Quand on venait voir le navet et qu'on le questionnait sur le procédé qu'il avait employé pour obtenir ce légume monstrueux, il prenait un air discret et feignait d'en cacher plus qu'il n'en voulait dire. Ce petit manège lui réussit. On cita le navet dans toute la contrée. On allait le voir en partie de plaisir, et il n'était pas petite maîtresse qui ne voulût en avoir fait le tour. Les écus pleuvaient dans la maison, car si l'on ne payait pas pour voir le légume, on achetait des fruits ou des fleurs, et les dames, que le paysan traitait fort galamment, mettaient ses bouquets à la mode. Cela excita la jalousie d'un de ses voisins, qui, poussé par l'envie, chercha à l'affliger et à ruiner sa prospérité. Ce méchant homme, fort riche du reste, faisait du jardinage pour son plaisir, et, comme son esprit était borné, il ne pouvait admettre qu'un artisan réussît mieux que lui dans ses cultures. Il allait de temps en temps voir le navet et lui lançait en secret des coups de pied bien appliqués pour le mâcher et le faire pourrir. Mais le légume résistait comme un roc et l'envieux n'arrivait qu'à fausser le bout de ses bottes. « En vérité, disait-il, je ne vois pas ce qu'on admire dans cette énorme rave. Qu'en ferez-vous, je vous prie, si vous le portez au marché? Qui voudra acheter un pareil phénomène? Le détaillerez-vous par tranches? Je doute qu'il soit aussi tendre que les petits navets. Je le crois même dur comme une pierre. Le ferez-vous embaumer pour le garder? Quel intérêt cela présente-t-il au monde? Rien n'est bête comme un navet. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, répondit le jardinier. Je vais songer à le placer comme il faut. Cependant, le temps de la récolte des navets approchait. Le paysan mit en réquisition les bœufs de ses voisins, et six attelages réunis parvinrent à tirer le légume de terre. On le hissa péniblement sur une charrette qu'il remplit tout entière. Quand cela fut fait, le jardinier déclara qu'il allait le présenter au roi, comme un échantillon de la fertilité du pays. Le roi fut touché de cette attention et examina le navet en connaisseur. Il en voulut goûter un morceau et affirma qu'il avait un faux goût de pomme de rainette. Les courtisans s'en partagèrent une tranche et jurèrent qu'il surpassait en délicatesse tous les ananas. Jamais Navé ne fut complimenté de la sorte. Les bontés du roi ne s'arrêtèrent pas là. Il donna au jardinier la croix de ses ordres, et pour qu'il pût se livrer à ses travaux sans souci de l'avenir, il lui offrit un contrat de rente. Le paysan, comblé de faveur, remercia l'excellent monarque et revint chez lui, riche pour toujours. L'envieux ne vit pas d'un bon œil cette fortune subite. Il n'osa pas montrer son ressentiment, mais il songea aux moyens d'obtenir de semblables récompenses. Il avait des serres fort bien tenues, des plantes rares et des fruits exotiques. Il rassembla ses produits les plus précieux, fit empoter ses fleurs dans des vases de porcelaine et disposa ses fruits dans des corbeilles dorées. Le tout fut réuni dans un char magnifique, traîné par de superbes chevaux. Quand tout fut prêt, il se rendit à la cour et pria le roi d'accepter ses présents, y compris la voiture et l'attelage. Le monarque aimait à recevoir et n'était pas ingrat. C'était là-dessus que le jaloux avait compté. Ses dons furent accueillis très gracieusement. « Vous me comblez, lui dit le roi, et je ne sais vraiment que faire pour reconnaître des cadeaux aussi magnifiques. » À ces mots, l'envieux rougit de plaisir. Il se voyait pour le moins à la tête d'un comté et songeait aux armoiries qu'il ferait peindre sur son carrosse. « Car si l'on paie bien les navets, disait-il, quel prix donnera-t-on des cactus et des aloès qui sont les sujets les moins précieux de mes corbeilles ?»« Vous excuserez mon embarras, dit le prince. Vous êtes riche et n'avez pas besoin d'argent. Vous êtes philosophe et n'aspirez pas aux honneurs. C'est donc le savant que je récompense. » Et je ne sais rien de plus curieux à vous offrir qu'une merveille qu'on m'a apportée l'autre jour. C'est un navet véritablement grandiose. Ne me remerciez pas, je sais à qui je le donne. Vous êtes l'homme qu'il faut pour l'apprécier dignement et pour écrire à son sujet une dissertation qui restera dans nos archives. Il sortit là-dessus, laissant l'envieux dans une stupéfaction muette qu'il prit pour un excès de reconnaissance. Celui-ci, la rage dans l'âme, mit le navet sur une charrette et fut obligé de le rapporter dans sa maison. Mais il jura de se venger, et comme le roi était hors de ses atteintes, il dirigea les effets de sa haine contre le jardinier. Celui-ci ne se doutait guère de ce qui se tramait contre lui et jouissait en paix de sa nouvelle fortune. Il vit un jour arriver son voisin qui lui fit de grandes amitiés. Après une assez longue causerie, l'envieux lui raconta qu'il avait découvert un trésor dans la forêt prochaine. « Il est trop lourd pour que je puisse l'emporter seul, dit-il. Et comme je vous sais honnête homme, j'ai voulu vous associer à cette bonne aubaine. Si vous y consentez, nous partirons demain de grand matin. Nous enlèverons le coffre et nous partagerons en frères. » Le jardinier le remercia fort d'avoir pensé à lui et ils prirent rendez-vous pour cette affaire. Mais l'envieux prépara une embuscade. Et dès que le paysan fut entré dans le bois, il fut saisi par une bande de reîtres ou soldats voyageurs qui le firent prisonnier et l'emmenèrent avec eux. Il eut beau pleurer, se jeter aux pieds du capitaine et lui offrir une forte rançon, tout fut inutile. Il ne put rien gagner sur le cœur de ses hommes, qui lui avouèrent que son voisin leur avait donné une grosse somme pour se débarrasser de lui. Il fallut donc qu'il se résignât à son malheur, car ses nouveaux compagnons le surveillaient si exactement qu'il lui était impossible de s'échapper. Le voilà donc soldat d'aventure, portant un mousquet sur l'épaule et suivant sa compagnie en pays étranger. Pendant ce temps, l'envieux profitait de son absence et s'emparait de son bien. Comme personne n'était là pour s'y opposer, cette injustice s'accomplit impunément. Quelques années plus tard, il arriva que ces reîtres s'engagèrent au service d'un petit prince d'Allemagne qui s'était révolté contre l'empereur. La guerre ne leur fut pas favorable, et dans un engagement, la compagnie fut entièrement exterminée, à l'exception du jardinier et du capitaine qui parvinrent à se sauver. Encore celui-ci était-il criblé de blessures comme une vieille écumoire, et il n'eut tenu qu'à son ancien prisonnier de se venger de ce qu'il avait souffert. Mais il avait bon cœur, et il soigna si bien son camarade qu'il le remit à peu près sur pied. Ils convinrent tous deux d'abandonner la carrière des armes dont ils avaient connu les désagréments. Ils s'inquiétèrent ensuite de ce qu'ils pourraient faire pour gagner leur vie. Le paysan voulait travailler à la terre, mais le capitaine, qui était un esprit ingénieux, l'en dissuada. « J'ai dans mes bagages, lui dit-il, de quoi rétablir notre fortune. Allez me chercher ce grand sac de toile forte qui nous servait à emporter notre butin quand nous étions gens de guerre. Je vous en ferai connaître les qualités. » Quand il eut le sac dans les mains, le capitaine le retourna soigneusement et s'assura de sa solidité. Puis, avec un sourire étrange, il dit à son compagnon « Ce sac est le sac de la sagesse, la clé de la science, le télescope ouvert sur l'avenir. » Il suffit de s'y renfermer avec de certaines cérémonies pour ouvrir son esprit aux plus grandes choses. Au surplus, venez avec moi et vous verrez la manière de l'employer. » Ils achetèrent une longue corde et sortirent de la ville pour s'établir sur un chemin très fréquenté qui longeait la lisière d'un bois. Le sac fut attaché à la corde qui passait au-dessus d'une haute branche d'arbre, de façon qu'en la tirant, on pouvait enlever le sac à une grande élévation. Ces préparatifs terminés, le capitaine s'assit tranquillement pour attendre les clients. Le premier passant ne manqua pas de lui demander ce que voulait dire cette installation. « C'est un arcane de la science, » répondit-il, « et vous ferez bien d'en parler avec respect. Il suffit d'entrer dans mon sac pour s'élever au-dessus des hommes et pour voir clair dans toutes les affaires de la vie. « Croyez-vous, » dit le passant, « qu'on puisse le consulter sur un procès ? Sans aucun doute, il vous donnera les meilleurs avis du monde. Vous n'avez qu'à vous y placer. » Le voyageur se laissa tenter par cette expérience, et quand il fut dans le sac, on l'enleva dans les airs. « En vérité, dit le jardinier, on apprend tous les jours. Je n'ai jamais vu de chose plus singulière. » « Ce n'est rien encore, dit son compagnon. Attendez un peu pour parler. » Au bout d'un quart d'heure, l'étranger voulut descendre. « Avez-vous trouvé, dit le capitaine, la solution de votre procès ? Pas du tout. Vous êtes trop prompt, mon ami. Je vous engage à y songer encore. » L'homme se fâcha et finit par entrer dans une grande colère. Le sac s'agitait violemment sous ses efforts, mais le capitaine ne s'en inquiétait aucunement. « Cet homme, dit-il au jardinier, et d'un tempérament irascible. Je ne m'étonne pas qu'il ait des procès. Attendons qu'il s'apaise et qu'il réfléchisse, car la sagesse ne vient qu'à ceux qui l'attendent avec calme et l'accueillent de bonne foi. » Il ajouta quelques belles maximes, car il était un peu lettré, et, après avoir attendu 2 bonnes heures, il s'adressa au client, qui ne bougeait plus. « Eh bien, lui dit-il, avez-vous fait vos réflexions ?»«
Tout à fait, répondit l'homme, vous pouvez lâcher la corde. J'ai entendu craquer le sac, et j'ai songé à la fragilité de la vie. Je vais m'arranger avec mon adversaire. »
« À la bonne heure, dit le capitaine en le délivrant. L'étranger se mit sur ses pieds, et regardant les 2 associés, il leur demanda, avec un peu de rancune,
« Que vous dois-je pour la consultation ?»«
Ce que vous voudrez. » Cette discrétion le charma et dissipa ses dernières préventions. Il paya, reprit le chemin de sa demeure et promit de recommander à ses amis le sac et ses maîtres. Un étudiant en casquette, serré dans une redingote à brandebourgs, apparut ensuite. Il marchait d'un pas agile, sifflant un air de valse. C'était un gai compagnon qui revenait de l'université où il n'avait pas appris grand-chose. Il aborda les 2 amis et s'informa de ce qu'ils faisaient sur la route. Quand ils le lui eurent expliqué, il se mit à rire aux larmes et se moqua d'eux, cherchant à les tourner en ridicule.
« Tout cela vous plaît à dire, répondit le capitaine, puisque vous doutez de mon sac, que n'y entrez-vous un instant? La science des écoles n'est rien en comparaison de ce qu'il peut vous enseigner. »
Cela tenta le jeune homme et il se décida à faire cette curieuse ascension.
« Eh bien, lui dit le capitaine quand il fut suspendu, ne sentez-vous pas la sagesse qui vous arrive? N'est-il pas d'un étourneau de railler une chose qui lui est inconnue, pour se mettre immédiatement après à la merci de 2 étrangers? Je vous déclare que vous ne sortirez de là que lorsque vous aurez fait de sérieuses réflexions. » L'étudiant se prit à crier comme un beau diable. Il jura, tempêta et les accabla de malédictions. Mais quand il vit l'impassibilité des 2 hommes, il finit par se taire et se prit à méditer longuement. Vers le soir, il s'adressa à ses geôliers.
« Vous aviez raison, leur dit-il, et j'en ai plus appris en un jour que depuis 7 années. J'ai compris que je perdais ma jeunesse et mon temps au cabaret et à la salle d'armes, dans l'ivrognerie et dans les querelles. S'il plaît à Dieu, je me conduirai mieux désormais. Vous pouvez me descendre en toute sûreté. »
« À la bonne heure, dit le capitaine en l'ôtant du sac. J'aime à vous voir devenu raisonnable. » Le soleil allait se coucher quand un villageois se présenta à son tour, gémissant de toutes ses forces et demandant des nouvelles de son âne qu'il avait perdu.
« Vous n'avez qu'à entrer dans le sac, dit le jardinier, et vous le retrouverez sans doute. »
Le capitaine n'osa pas démentir son ami, et le paysan fut hissé dans les airs. À peine touchait-il la cime des arbres qu'il poussa des cris de joie. Il venait d'apercevoir de cette hauteur l'âne égaré qui se promenait dans un taillis voisin. On le délivra promptement, et non content de donner un écu aux 2 associés, il alla prôner dans tout le pays le pouvoir du sac miraculeux. Le lendemain, le commerce alla mieux encore. Il y eut affluence pour entrer dans le sac de la sagesse, et le capitaine, qui était un homme de tact, choisit ses clients et les tria sur le volet. Il appuyait de bons conseils les réflexions que l'isolement faisait naître
et quelques heures de solitude avaient raison des caractères les plus rétifs. Bref, le sac devint à la mode, et les deux amis furent obligés de se relever l'un l'autre pour suffire à l'empressement du public. Quand une difficulté survenait dans une affaire, on venait les trouver. Les dames elles-mêmes voulurent entrer dans le sac, et il en résulta une tranquillité relative dans les ménages. Enfin, le commerce des deux soldats allait à merveille. En voyant cette prospérité, le jardinier projetait d'emprunter à l'association l'argent nécessaire pour rentrer dans son pays et tâcher de recouvrer sa fortune. Un jour qu'il songeait à cela, assis au pied de l'arbre où le sac vide se balançait, il vit arriver un voyageur superbement vêtu, monté sur un cheval de race. Il reconnut avec surprise l'envieux qui l'avait persécuté et qui était cause de ses malheurs. Celui-ci était à 100 lieues de supposer que ce soldat balafré et bruni par le soleil pût être son ancien voisin. Il lui adressa la parole et lui raconta qu'il n'avait pas voulu traverser le pays sans voir le sac dont on parlait tant. « Le voilà, lui dit le jardinier, mais on ne peut en connaître la vertu qu'en l'habitant quelques heures. Son influence est plus grande que celle des astres, et il peut modifier les destinées et le caractère. Croyez-vous, dit l'envieux, qu'il puisse donner la paix du cœur et faire oublier d'anciennes fautes? C'est une grave question. Je puis vous affirmer seulement que si vous vous y placiez, il se ferait un grand changement dans votre vie. » Le cavalier mit pied à terre et entra résolument dans le sac, poussé par un mouvement de curiosité qu'il ne put vaincre. Le jardinier l'éleva dans les airs et assujettit fortement la corde. « Regarde-moi à présent, dit-il au voyageur, et tâche de me reconnaître. » Surpris par l'accent de cette voix, l'envieux élargit un trou qui se trouvait au fond du sac et y passa la tête. Il aperçut son ancien voisin monté sur son cheval et prêt à partir. « Je suis l'homme au navet, lui dit sa victime. Dieu t'a conduit ici pour te faire expier ton crime. Je vais rentrer dans mon pays, raconter au roi ce qui s'est passé et reprendre possession de mes biens. Adieu !» Pendant que le méchant remplissait l'air de ses cris, le jardinier courut prévenir le capitaine, qui prépara ses bagages et se disposa à l'accompagner. Ils firent un heureux voyage et furent très bien reçus par le roi, qui s'intéressa fort à leur aventure. Quant à l'envieux, il est encore dans le sac.